RCF.
Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Une émission produite par Laurent Vorporten.
L'urbanisation de la planète se poursuit à un rythme galopant, et cela particulièrement dans les pays moins développés, les pays du Sud. D'ici à 2050, 3 milliards d'individus supplémentaires devraient se regrouper dans les villes et leurs périphéries. Les experts s'inquiètent, sans un minimum d'organisation, une telle évolution risque d'accentuer la précarité de pans gigantesques de la population mondiale. Au centre de leurs préoccupations, les zones périurbaines, un concept en pleine émergence auquel vient d'être consacré un ouvrage de sa thèse sous la direction de Yann Bogart, qui est directeur de l'unité biodiversité et paysage à Jean Blou Agrobiotech, et de Jean-Marie Halleux, professeur de géographie économique à l'Université de Liège, qui est notre invité aujourd'hui.
RCF.
Jean-Marie Halleux, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Halleux, pour commencer cette émission, je rappelle le titre de cet ouvrage, publié aux presses agronomiques de Jean Blou, « Territoires périurbains, développement, enjeux et perspectives dans les pays du Sud ». Cet ouvrage réunit des chercheurs de différentes disciplines, parce que ces phénomènes sont des phénomènes énormes et globaux qu'on ne peut pas, j'imagine, traiter sous un seul angle.
Oui, tout à fait. C'est un ouvrage qui a rassemblé, je pense, une cinquantaine de chercheurs. Et en tout cas les contributions d'une cinquantaine de chercheurs et des chercheurs issus d'abord à la fois du Nord et du Sud, hein, puisqu'on a de très nombreux collègues d'Université du Sud qui ont participé donc à ce travail. Et puis effectivement, comme vous le soulignez, des spécialistes de domaines extrêmement variés. Ça va de la géologie jusqu'à la pharmacie, en passant par la sociologie, l'anthropologie, etc. Donc c'est extrêmement, extrêmement vaste. Et vous avez tout à fait raison, on a effectivement besoin de ce vaste panel d'expertise et de compétences pour faire le point sur un phénomène qui effectivement est un phénomène global.
Le phénomène global dont vous parlez, c'est l'urbanisation. Cette urbanisation, on peut la voir dans nos pays. Bien sûr, dans l'ouvrage, c'est dans les pays du Sud qu'elle est analysée. Jean-Marie Halleux, pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour que les auditeurs se rendent compte du caractère massif de ce phénomène d'urbanisation?
Oui, c'est vrai que les chiffres sont quand même assez parlants, hein. Donc on peut par exemple partir de la situation actuelle, hein. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 7 milliards d'individus sur la planète et globalement, les statisticiens de l'ONU qui recensent les données considèrent qu'aujourd'hui, on a dépassé la barre des 50% d'urbains. Donc officiellement, dans les registres statistiques, plus de la moitié de la population de la planète est urbaine. Donc il faut voir qu'on vient quand même en 1950 d'une proportion où il y avait à peu près 15-20% d'urbains. Et puis aux alentours de 2050, donc en 2050, on attend 9 milliards d'individus sur la planète. Et sur ces 9 milliards, on attend 6 milliards d'urbains. Donc effectivement, ça donne carrément le tournis, hein. Il faudra gérer les choses pour pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent vivre dans des conditions décentes, ce qui n'est pas évidemment toujours facile dans pas mal de contextes sur la planète.
Jean-Marie Halleux, cette situation, elle est encore plus extrême en Afrique, puisque la population des villes grossirait d'ici 2050 par 5 fois.
Oui, donc si on prend l'Afrique subsaharienne, donc on tourne autour de 200-250 millions d'urbains aujourd'hui en Afrique subsaharienne, et on attend 1 milliard d'urbains à l'horizon 2050. Donc il faut se rendre compte, les villes vont avoir 4 fois plus d'importance en population. Et puis, on parle ici de périurbanisation. La périurbanisation, c'est clairement le fait que les populations ne vont pas habiter dans des villes au sens classique du terme, mais vont habiter dans des formes relativement peu denses, en fait, entre ce qui est la campagne traditionnellement et ce qui est la ville traditionnellement. Et donc ça voudra dire aussi qu'on va consommer énormément de terrain. Donc, comme ça vient d'être dit, on va multiplier les populations urbaines par 4, par exemple en Afrique subsaharienne, mais on va multiplier les consommations d'espace, de terrain voué à l'urbanisation par 10 ou par 12. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, hein, qui doit aussi évidemment être géré.
Jean-Marie Halleux, avant d'aborder cette notion même de périurbain, de voir les caractéristiques de ces zones entre la ville et la campagne, mais tournées vers la ville, une question presque de béotien, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on constate une telle attirance vers la ville, vers les villes ?
Donc je crois qu'il y a deux éléments dans la réponse. Il y a d'abord, comme vous venez de le dire, une attraction pour les villes, et puis ensuite, il y a, lorsque l'on est attiré vers la ville, un autre phénomène qui est donc ce phénomène de déconcentration vers le périurbain. Mais pour ce qui est d'abord de l'attraction vers les villes, bon, ça dépend évidemment des contextes, mais il y a à la fois des facteurs répulsifs finalement du lieu de départ, c'est-à-dire du village, de la campagne. Facteur répulsif, pourquoi ? Parce qu'il y a par exemple trop de population par rapport au terrain disponible. Hein. L'agriculture, par exemple, n'a pas nécessairement besoin de bras comme c'était le cas dans le passé. Dans d'autres contextes, par exemple en Afrique, il y a évidemment des problèmes d'insécurité qui vont pousser les populations aussi vers les villes. Donc il y a des facteurs répulsifs et en même temps, il y a des facteurs attractifs de la ville. Donc les populations dans ces villages pensent finalement que la vie va être plus facile en ville, même si c'est pas toujours le cas. Donc on pense par exemple qu'on aura un accès plus aisé, par exemple, aux soins de santé, que ses enfants pourront avoir un accès plus aisé aux services d'enseignement. Donc voilà, on espère globalement que la vie va être meilleure. Et là-dessus, peut-être ce qui est intéressant, parce qu'on ne se rend peut-être pas toujours compte dans nos pays développés, c'est que le différentiel, en fait, entre le mode de vie en ville et le mode de vie à la campagne est en fait d'autant plus important que le pays est peu développé. Donc dans voilà, un pays comme la Belgique, il n'y a pas de différence fondamentale entre le mode de vie d'un urbain et d'un rural. Par contre, en République démocratique du Congo, même si la vie est très difficile dans les logements précaires, dans ce qu'on appelle communément les bidonvilles de Kinshasa ou d'autres mégapoles, eh bien finalement, ça reste sans doute préférable par rapport à un dénuement qui est quand même souvent complet dans les villages. Quoi. Donc la ville attire d'autant plus que le niveau de développement est faible.
Évidemment, lorsque ces populations arrivent dans ces villes, les endroits où ils peuvent se loger sont parfois au-delà de leurs possibilités de paiement et donc ils vont, pour la plupart, s'installer dans ces zones périurbaines. Alors Jean-Marie Halleux, on entend ce concept, cette notion de périurbain, même dans nos pays. Pour nos auditeurs, c'est intéressant de l'éclairer. Est-ce qu'on peut simplement dire que, voilà, ce sont les périphéries des villes ? C'est comme ça qu'on pourrait le mieux s'approcher ? Ou c'est encore autre chose ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment marqué dans nos cultures, dans nos esprits, par cette dichotomie ville d'un côté et campagne de l'autre. Ça s'explique parce que, en fait, ça fait 5000 ans que l'humanité habite dans ce qu'on appelle communément des villes. Et puis, depuis maintenant quelques décennies, on a ce que j'appelle un relâchement des contraintes de mobilité qui fait que la ville peut se disperser sur des territoires considérablement élargis. Alors ça a été initié par la révolution industrielle, donc dès 1850 par exemple dans nos pays, et ça se met réellement en place dans la seconde moitié du XXe siècle dans les pays du Sud. Et donc le phénomène de fond par rapport à ce relâchement de contraintes de mobilité, il est le même. Les populations disposent de moyens techniques plus sophistiqués pour se déplacer. Dans nos contextes, ça va être la voiture. Dans les pays moins développés, moins avancés, ça pourrait être une moto, ça pourrait être le taxi collectif, donc ce genre de choses qui vont permettre de redéployer les villes finalement sur des territoires plus vastes. Donc ça, c'est finalement assez similaire dans nos contextes, en Amérique du Nord, dans les pays émergents, dans les pays les moins avancés. Maintenant, il y a évidemment de fortes différences qui est que souvent dans nos contextes, le développement des périphéries est plutôt quelque chose de désiré, hein, les populations aspirent à ce développement périphérique, alors que dans les pays les moins avancés, ce qui se passe, c'est que c'est souvent une périurbanisation qui est contrainte parce que les populations n'ont pas accès à un logement, parce que le logement, évidemment, coûte plus cher à proximité du centre. Donc souvent, les populations plus favorisées vont pouvoir habiter à proximité du centre. Et puis, en fonction des niveaux de revenus, les plus pauvres, en fonction de l'appauvrissement, finalement, on va s'éloigner. Et on va aussi, on va s'éloigner d'une part, et puis d'autre part, on va surtout vivre aussi dans des conditions qui sont précaires, qui vont donner lieu à à des problèmes en termes de risques. Donc on peut penser à des glissements de terrain, on peut penser à des problèmes d'inondation, etc. Donc on va loin vers les périphéries et on va aussi sur des terrains qui sont des terrains à risque globalement.
Jean-Marie Halleux, on va bien sûr poursuivre grâce à vous cette analyse de ces zones, de ces larges zones périurbaines dans les pays du Sud. Mais auparavant, on écoute une chanson intitulée « Big City Life », la vie dans une grande cité, interprétée en 2005 par le groupe américain Matafix.
Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try forget my pressure knees up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base. And right now big city life, try forget my pressure now is up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, me try forget my pressure now is up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure now is up no matter how hard me try. Big city life, my heart.
RCF. De retour sur la radio chrétienne francophone en compagnie de Jean-Marie Halleux. Jean-Marie Halleux est professeur de géographie économique à l'Université de Liège. Il est l'un des éditeurs scientifiques responsables de l'édition de cet ouvrage « Territoires périurbains, développement, enjeux et perspectives dans les pays du Sud. Jean-Marie Halleux, ces zones périurbaines qui se développent et qui sont appelées à se développer selon toutes les prévisions que vous analysez, elles se caractérisent entre autres par des difficultés de gouvernance, ce qui est assez normal puisque ces personnes viennent s'installer à un rythme relativement rapide, elles se mélangent les unes aux autres, c'est déjà une réalité du terrain qui complexifie la manière de gérer tout ça.
Oui, effectivement, c'est une des raisons qui nous a vraiment poussé à travailler sur ces sujets, c'est que la gouvernance de ces territoires périurbains est complexe. Alors elle est complexe parce que, comme vous venez de l'indiquer, la croissance est très forte, donc ça veut dire qu'il y a une pression sur les ressources, mais elle est complexe aussi parce qu'on a des institutions finalement qui ne sont pas adaptées, dans le sens où il y a souvent un conflit entre les institutions, donc les modes de gouvernance classiques des villes, par exemple, qui en réalité correspondent à ce qui a été importé, notamment par les pays colonisateurs. Et puis, il y a en parallèle une gouvernance qui est liée finalement plutôt aux structures coutumières. Ça, c'est par exemple très impressionnant en matière d'appropriation des terrains. Donc, on a d'un côté un droit étatique qui fonctionne finalement comme dans les pays du Nord, dans les villes. Donc ça arrive finalement des villes, alors que dans les campagnes, on a une appropriation des terres qui se fait sur une base coutumière. Et dans le périurbain, on a clairement un conflit entre ces deux types d'appropriation. Donc autant la propriété coutumière peut fonctionner dans les espaces de faible densité finalement, autant elle n'est pas adaptée dans les espaces périurbains, mais elle reste quand même très, très prégnante, quoi. Donc il y a vraiment un conflit entre les deux types de gouvernance. Alors il y a d'autres exemples, hein. Par exemple, ce qu'on a pu mettre en avant dans le cadre de ce travail, c'est tout ce qui concerne la santé. Donc de nouveau, on a d'un côté des structures héritées ou qui sont liées évidemment à l'état moderne, c'est-à-dire des structures de santé avec des hôpitaux, avec des médecins, donc la médecine moderne finalement. Et puis on a en parallèle dans les campagnes plutôt des traditions qui correspondent globalement à ce qu'on appelle les tradis praticiens. Et dans le périurbain, de nouveau, on a une rencontre entre ces deux types de fonctionnement. Et ce qu'on constate, c'est que d'un côté, les populations sont trop pauvres pour accéder aux services classiques, donc à la médecine moderne, avec notamment les médicaments sains. Et puis, en même temps, la manière traditionnelle de fonctionner, donc via le tradit patricien, n'est pas efficace. N'est pas efficace pourquoi ? Parce que cette population est plus forte finalement qu'à la campagne. Et donc, ça laisse finalement de la place, notamment pour les charlatans, puisque les communautés ne peuvent pas aussi facilement qu'à la campagne identifier les personnes susceptibles de créer problème. Donc, on voit bien qu'on est avec des structures pour l'appropriation des terres, pour la médecine, pour l'enseignement, etc. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples qui posent problème parce qu'on n'est ni dans une ville de nouveau au sens classique du terme, ni dans une campagne au sens classique du terme.
Ce qui est très intéressant, Jean-Marie Halleux, c'est que vous mettez tout de suite ces difficultés en perspective avec des héritages, des manières d'envisager la ville et ses habitants, et en l'occurrence le périurbain, parce qu'il est nouveau en quelque sorte, ne correspond pas tout à fait à ces schémas anciens. Il faudrait donc en quelque sorte repenser cet espace sous des critères nouveaux, et c'est ce que vous essayez en partie dans ce livre, pour essayer de pouvoir faire face à ce qui se prépare d'ici 2050 et au-delà.
Donc là, évidemment, c'est ce qui est finalement le plus difficile, hein, parce que bon, on commence maintenant à comprendre comment tout ça fonctionne. Mais maintenant, on n'a évidemment pas de solution toute faite pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors bon, ce qu'on met en avant comme idée générale, c'est finalement de renforcer tout ce qui est coopératif, tout ce qui est participation, donc de solliciter au maximum l'avis des populations locales. Donc ça, c'est notamment vrai en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement, où on a souvent des décisions qui sont prises par des décideurs sans vraiment tenir compte des besoins des populations locales. Donc voilà, ça c'est globalement une grande recommandation, même s'il faudrait clairement aller bien au-delà de ça dans des mesures beaucoup plus précises, mais c'est bien analyser les choses et puis essayer de travailler finalement en fonction des besoins de la population.
Oui, la question évidemment des besoins de la population est essentielle. Il y a l'espace, mais tout n'est pas l'espace, Jean-Marie Halleux. Il faut vraiment aborder ces problèmes par rapport à ses besoins, aux limites même de cet espace, à ses ressources, parce que sinon on va dans le mur, c'est ça.
Ça recoupe aussi les problèmes d'aménagement et d'urbanisme. Un préalable finalement à la gestion de ces problématiques périurbaines, c'est finalement d'accepter le fait qu'il va y avoir une croissance. Comme je le disais, souvent les populations, souvent les décideurs ne prennent pas réellement compte des besoins de la population, et dans beaucoup de villes, les décideurs ne souhaitent pas finalement accueillir la population parce que ça complexifie beaucoup de problèmes. Et donc on a la crainte finalement d'un effet d'appel d'air. Hein. Bon, c'est un peu ce qu'on rencontre aussi hein, dans les problèmes actuels en termes d'immigration, de réfugiés, etc. On a peur de l'appel d'air et en conséquence, on ne gère pas les problèmes alors qu'on pourrait très bien mieux les gérer. Et mieux les gérer, c'est notamment accepter que la population va augmenter, donc que les besoins notamment en infrastructures, mais aussi en terrain vont augmenter. Et il faudrait de ce point de vue-là, et ça ne demande pas des moyens techniques et des investissements considérable, c'est prévoir simplement les terrains où les populations pourraient être le mieux logées finalement, et éviter, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, éviter les zones les plus sensibles, les zones à risque, etc. De nouveau, ça ne demanderait pas énormément de moyens, mais ça nécessite de la part des décideurs, donc concrètement des personnes en charge des villes, et puis des gouvernements centraux pour les capitales, d'accepter que la population va augmenter et ne pas se voiler la face.
Jean-Marie Halleux, on est déjà à la fin de cette émission. Est-ce que lorsqu'on regarde la situation des pays du Sud, il y a pour nous, pays du Nord, quelque chose que l'on peut retirer pour notre gestion de l'espace, ou ce périurbain, comme vous l'avez dit dans cette émission, est tellement éloigné du périurbain vécu dans les pays du Sud qu'il faut analyser les deux situations sans faire de parallèle rapide.
Ce que vous invoquez me fait penser au fait que, bon, on a ici beaucoup parlé évidemment des problèmes, ce qui est tout à fait justifié, mais en même temps, l'urbanisation de la planète représente de grandes opportunités. Bon, on voit aujourd'hui hein, que le taux de croissance, par exemple, en Afrique est relativement important. Ben, il est clair que ce taux de croissance, il est tiré par les villes. Hein, donc la ville, le développement de l'urbanisation, c'est évidemment un défi colossal, mais c'est aussi de grandes opportunités, puisque c'est dans les villes, hein, on le voit bien avec les pays émergents, avec la Chine, etc., avec l'Inde, c'est clairement dans les villes que se crée finalement de la valeur ajoutée, que se crée de la richesse, qu'on génère des innovations, et c'est ça sans doute qui est finalement le point central en termes d'éléments positifs.
Jean-Marie Halleux, y aura-t-il une suite à la publication de cet ouvrage « Territoire périurbain, développement, enjeux et perspectives dans les pays du Sud » Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette thématique de l'urbanisation et de cet espace du périurbain, et cela à travers le monde, mobilise de plus en plus de chercheurs?
Oui, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ouvrage en fait s'inscrit dans une politique institutionnelle de la part de l'Université de Liège. L'Université de Liège a choisi justement ce thème de la périurbanisation comme axe pour sa politique en matière de coopération au développement. Et cet ouvrage est lié à un colloque qui s'est déroulé en 2013. Donc la deuxième étape, ça a été la publication de l'ouvrage. Et il y a aujourd'hui une structure permanente de l'Université de Liège qui fonctionne à Kinshasa. Et pour le moment, il y a 5 doctorants qui travaillent sur ces problématiques de la périurbanisation. Donc ça, voilà, ça s'inscrit dans une politique de l'institution, donc de l'Université de Liège, qui considère que les problématiques périurbaines méritent vraiment d'être mises en avant.
Merci beaucoup Jean-Marie Halleux. Je rappelle que vous êtes professeur de géographie économique à l'Université de Liège. Vous êtes l'un des deux éditeurs scientifiques de cet ouvrage avec Yann Bogart, « Territoire périurbain, développement, enjeux et perspectives dans les pays du Sud ». Et vous étiez notre invité aujourd'hui. Merci.
Merci à vous.
Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable.
Mon amour,
c'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière,
mon âme en amoigné.
Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Au plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais, toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Au-delà mes aspères, c'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière,
C'était Bernard Lavilliers sur la radio chrétienne francophone qui nous chantait Angola. Avant de rejoindre la suite des programmes sur RCF, je vous propose d'entendre une nouveauté. Il s'appelle Julian Peretta et il chante Miracle, ce qui signifie le miracle.
When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. You save me, I save you, a miracle that was meant for two. I save you, you save me, a miracle with every beat of my heart.
Oh,